Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Joe Biden a prononcé le premier discours de son mandat à l'ONU à l'ouverture de l'Assemblée générale et en pleine crise des sous-marins, tout en sous-entendu. Le président américain dit son attachement aux alliances. Nous irons à New York. L'Élysée pointe une faute déontologique de plusieurs professionnels de santé alors que le pass sanitaire d'Emmanuel Macron a fuité sur les réseaux sociaux. Nous essaierons de comprendre comment un tel incident a pu se produire. 20 ans après l'explosion de l'usine AZF, Toulouse se souvient et vit encore avec l'ampleur de la catastrophe. Les traumatismes perdurent, nous irons sur place. La chirurgie du cœur fait un pas en avant avec Carmat. L'entreprise française a réalisé la première implantation de son cœur artificiel chez une femme. Le patron de Carmat nous expliquera pourquoi seuls les hommes étaient jusqu'ici éligibles. La nouvelle plateforme téléphonique d'écoute des victimes d'inceste croule déjà sous les appels quelques heures seulement après son ouverture. Reportage à suivre. Et si les arbitrages de Ligue 1 avaient sur eux, les arbitres de Ligue 1 avaient sur eux des micros ouverts pendant les matchs. C'est ce que réclame Jean-Michel Aulas. Le foot va-t-il suivre l'exemple du rugby? C'est ce que nous allons voir. La météo vous promet une belle journée pour demain. Premier jour de l'automne. Rendez-vous avec Marlène Duré à la fin de ce journal. À suivre Top à Wall Street avec Didier Hamot. L'invité éco à 22h20 sera Nicolas Julia, fondateur de Sorar, qui vient de réaliser la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech. Elle mise, figurez-vous, sur un jeu en ligne pour échanger et collectionner des vignettes numériques de joueurs de foot.
Europe 1.
Joe Biden a prononcé le premier discours de son mandat à la tribune de l'ONU en pleine crise des sous-marins avec la France, alors que s'ouvre l'Assemblée générale des Nations Unies. Pas de message direct pour la France, mais des sous-entendus. Joe Biden a insisté sur le rôle crucial des alliances pour les États-Unis, Alexis Guilleux.
Oui, c'est un thème fétiche de Joe Biden depuis son arrivée à la Maison-Blanche, la reconstruction des alliances, mise à mal ces dernières semaines après la débâcle en Afghanistan et la crise actuelle avec la France. Mais Joe Biden l'a répété devant les Nations Unies, il veut travailler avec les alliés de l'Amérique, y compris dans l'Indo-Pacifique.
Alors que les États-Unis tournent leur attention vers d'autres régions du monde, comme l'Indo-Pacifique, nous le ferons avec nos alliés et nos partenaires. C'est une vérité fondamentale du XXIe siècle. Notre propre succès est lié à celui des autres.
Alors, sans citer la France, Joe Biden rappelle que les alliances sont essentielles pour la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Les États-Unis ont mis fin à la guerre en Afghanistan et c'est désormais une ère de diplomatie qui s'ouvre sur le président américain. Notre puissance militaire doit être utilisée en dernier recours. Pour autant, pas question d'un repli sur soi pour Joe Biden.
Les États-Unis seront compétitifs et le seront vigoureusement. Nous défendrons nos alliés et nos amis. Mais nous ne recherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs.
Une allusion claire à la rivalité avec la Chine. Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire général de l'ONU a appelé les deux premières puissances mondiales au dialogue, alors que le monde est déjà, selon ses mots, au bord du gouffre.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. Alors que le silence reste de mise à l'Élysée, Nicolas Sarkozy a réagi à la crise des sous-marins pendant une séance dédicace de son dernier livre à Neuilly-sur-Seine. On pourra trouver Promenade demain en librairie. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy soutient Emmanuel Macron dans cette crise des sous-marins.
Moi, je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement. Entre alliés, ça ne se fait pas. C'est inadmissible. Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs. Et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faudra en tirer les conséquences.
Nicolas Sarkozy avec Alexandre Chauveau. Il faudra en tirer les conséquences, dit l'ancien président. Emmanuel Macron, lui, ne s'est pas encore exprimé publiquement dans cette crise des sous-marins, mais un conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Élysée. La France prépare la réplique. Louis Dragnel.
Oui, absolument, et ça s'est matérialisé, vous l'avez dit, par l'organisation de ce conseil de défense à l'Élysée ce matin. Et puis, quelques heures plus tard, le ministère des Armées a révélé, tenez-vous bien, que le jour même de l'annulation du contrat, un document signé et tamponné par l'Australie indiquait sa satisfaction sur l'avancée du programme et donc son accord pour le poursuivre. En clair, le gouvernement veut montrer que les services français n'ont pas fauté et que la France est bel et bien victime d'une duperie, d'une tromperie des Australiens et des Américains. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est donc donc la riposte. Plusieurs pistes sont sur la table. Une sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, une mesure vraiment symbolique. Surtout, il faut se souvenir quand même de ce qu'en disait Emmanuel Macron il y a quelques mois. L'OTAN est en état de mort cérébrale. Autre levier, négocier d'importantes pénalités de compensation. Mais la possibilité, l'hypothèse qui circule le plus, c'est la renégociation ou la rupture du contrat de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Ce qu'il faut bien comprendre, outre le fait qu'Emmanuel Macron attend de téléphoner à Joe Biden avant de s'exprimer, le silence du chef de l'État s'explique surtout aussi parce que, en ce moment même, la diplomatie française se mobilise à tout va pour convaincre les capitales européennes pour essayer d'obtenir leur soutien sur ce sujet d'accord de libre-échange avec l'Australie, ce qui permettrait aussi de montrer une Europe politique. Mais je peux vous dire que c'est un combat qui est loin d'être gagné pour le moment.
Louis de Ragnel, une déclaration tranchante dans les colonnes du Monde. L'ancien Premier ministre australien critique fortement la décision de l'Australie d'annuler l'achat de sous-marins français. Kevin Rudd avait signé cet accord avec Paris en 2016 et aujourd'hui, il estime que la volte-face de son successeur et de son pays donc va aggraver les tensions en Asie du Sud-Est. Le traumatisme, toujours présent 20 ans après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, 31 morts, 2500 blessés, la déflagration avait été entendue à 80 km à la ronde. Aujourd'hui encore à Toulouse, chacun se souvient de ce qu'il faisait le 21 septembre 2001 à 10h17. C'était ce matin le cœur de la commémoration que vous avez suivi, Benjamin Péter. Sur place, la douleur est encore à vif.
Oui, et ce qui frappe, c'est que les gens qui l'ont vécu continuent d'en parler comme si c'était hier, même 20 ans après. Alors à 10h17 précise, les sirènes d'alerte ont retenti, les noms des 31 victimes ont été égrenés avant que l'assemblée réunie autour du mémorial AZF ne respecte une minute de silence. France, dont le père avait été grièvement blessé, est venu très ému déposer une gerbe devant le monument.
Toute la baie vitrée avait explosé. Il a eu les doigts arrachés, enfin les genoux, tout. Il a été très blessé. Et puis, quelques mois après, il a traîné, il a souffert. Il est décédé. Quand j'ai déposé la gerbe, j'ai dit « Tu me vois là-haut, hein, tu me vois. »
Pour le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, l'ampleur de la catastrophe est telle que même 20 ans après, la douleur est toujours aussi vive ici.
Le drame a été terrible. Quand vous avez 31 morts, quand vous avez toute une usine qui est détruite, beaucoup de blessés. On a beaucoup vu à travers les images les dégâts matériels. Ils ont été pour la quasi-totalité surmontée. Par contre, les dégâts humains, ils sont là. Et donc, je crois qu'il ne peut pas en être autrement. Que tout ça soit vif, même 20 ans après.
Et comme chaque année, cette commémoration s'est déroulée en ordre dispersé, puisque deux autres cérémonies avaient lieu au même moment. Des victimes au rond-point du 21 septembre, à quelques centaines de mètres de là. Et sur le site, des anciens salariés d'AZF qui se sont retrouvés quelques minutes plus tôt.
Benjamin Péter à Toulouse, 20 ans après l'explosion de l'usine AZF. Depuis hier soir, le pass sanitaire d'Emmanuel Macron circule sur les réseaux sociaux. L'Élysée a confirmé à Europe 1 le caractère authentique de ce QR code, ce qui pose la question de la sécurité des données quand même la personne la mieux protégée de France n'est pas à l'abri. Alors, cette question, Jacques Serret, comment une telle fuite a-t-elle pu se produire ?
Eh bien, d'après l'Élysée, ce sont des professionnels de santé qui sont à l'origine de cette fuite. Depuis le début du mois de septembre, les soignants peuvent avoir accès aux données médicales de tous les Français vaccinés via un système informatique centralisé. Et certains ont consulté le dossier vaccinal du président. Ils ont fait circuler ces données, soit par négligence, soit par malveillance, explique un conseiller du chef de l'État. Résultat, le QR code d'Emmanuel Macron s'est retrouvé en ligne sur les réseaux sociaux hier soir. Alors l'Élysée dénonce une faute déontologique. Et dès cet après-midi, la Caisse nationale d'assurance maladie a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins en vue d'éventuelles sanctions pour le ou les professionnels à l'origine de la fuite. En attendant, Emmanuel Macron va recevoir un nouveau QR code, comme pour Jean Castex, dont le pass sanitaire a lui aussi fuité hier. Mais pour le Premier ministre, c'était à cause d'une photo publiée par une agence de presse. L'Élysée annonce ce soir que des dispositions particulières vont être mises en place pour rendre inactifs leurs précédents QR codes.
Et Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La Seine-Saint-Denis ne parvient plus à verser le RSA à ses bénéficiaires en raison de l'augmentation du nombre d'allocataires. La facture dépasse 550 millions d'euros annuels, mais un accord a été trouvé. L'État va soulager les finances de ce département défavorisé en prenant en charge une partie du surplus de dépenses. L'expérimentation est prévue sur 5 ans. Elle porte sur une rallonge de l'État de 50 à 70 millions par an. Stéphane Troussel est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il explique pourquoi il a fini par demander l'aide de l'État.
Il faut constater que depuis la création du RMI en 89, puis du RSA, eh bien, la situation en matière de pauvreté, de précarité dans nos pays a conduit à une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA aujourd'hui. C'est vrai, en particulier dans un territoire fragile, populaire, comme la Seine-Saint-Denis. Et donc, ça, effectivement, avec ce mode de financement très injuste, très inégalitaire, fait supporter une part croissante au budget départemental. Et c'est autant de moyens en moins que nous n'avons pas eu pour développer les politiques d'insertion, pour financer les politiques, les autres politiques publiques, ou bien encore pour investir dans un département qui se développe, qui se transforme, qui a besoin de construire un collège supplémentaire à chaque rentrée scolaire. Et donc, nous avons dû déséquilibrer, par exemple, nos indicateurs financiers en recourant de plus en plus à l'endettement.
Stéphane Troussel avec Romain Desarbres dans Europe Midi. La mort de Paul Quillès à 79 ans, proche de François Mitterrand. Il avait été son directeur de campagne en 1981. Paul Quillès avait été plusieurs fois ministre au logement, au transport et aux télécoms notamment.
Europe 1.
À peine ouverte ce matin, la nouvelle plateforme d'écoute des victimes d'inceste a été prise d'assaut. Des centaines d'appels ont été passés en quelques heures au numéro vert 0805 802 804. Au bout du fil, des professionnels écoutent et orientent les victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Virginie Riva.
Oui, une personne au bout du fil dit avoir attendu cet appel toute sa vie. Ce sont majoritairement des femmes au-dessus de 50 ans qui appellent. Les conversations sont longues. Élodie, écoutante, accompagne la libération de la parole de cette femme.
Ce que vous m'expliquez, c'est qu'effectivement, enfant, vous avez eu ce courage de révéler ces violences et qu'il n'y a aucun adulte qui vous a protégé concrètement.
Des téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, laissant peu de répit à des écoutantes éprouvées par le récit de ces vies brisées. Emmanuelle Pied, présidente du collectif féministe contre le viol qui accueille la plateforme téléphonique.
Les écoutantes raccrochent pour décrocher et il y a des tas d'appels non aboutis. Donc si ça n'a pas abouti ce matin, elle rappelle cet après-midi ou demain et ça finira par aboutir.
Partir de la parole des victimes pour mettre la société face à ses responsabilités, c'est la stratégie choisie par Édouard Durand, magistrat et coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
C'est aujourd'hui, dans ce lieu, que va émerger de façon très puissante dans la société une stratégie de protection des enfants.
La plateforme téléphonique doit durer 2 ans, le temps pour la commission de rendre ses recommandations.
Reportage Virginie Riva. On rappelle donc ce numéro d'écoute pour les victimes d'inceste, 0805 802 804. La ligne est ouverte de 10h à 19h. Vous pouvez aussi composer pour l'Outre-mer le 0800 100 811. On revient maintenant sur ce tour de force de l'entreprise française Carmat. Pour la première fois, un cœur artificiel a été implanté chez une femme. Jusqu'ici, les différences morphologiques entre les femmes et les hommes rendaient l'opération impossible. La première receveuse est une Américaine de 57 ans. Stéphane Pia était à midi sur Europe 1 pour annoncer cette première. Le directeur général de Carmat explique pourquoi il s'agit d'une vraie prouesse.
Les femmes en général sont un peu plus basses que les hommes, la cage thoracique est un peu moins grande. Et si vous voulez, quand on commence des implantations de faisabilité comme une prothèse Carmat, la peur toujours c'est de ne pas pouvoir refermer le thorax. Donc il y a des années, bien avant que j'arrive, en 2013 avec le premier patient, on était très conservateur. On voulait une distance rachisternum très élevée. Au fur et à mesure, sur les hommes, avec un H masculin, on a réduit cette distance. Et avec la femme, maintenant, on a démontré que le dispositif, il peut aller très bien dans la plupart des hommes masculins.
Donc là, on est vraiment sur une prouesse. C'est-à-dire que vous venez de prouver que tout le monde peut finalement avoir, ou
la
quasiment...
La majeure partie des adultes.
La majorité des adultes, hommes et femmes, peuvent donc désormais recevoir un cœur artificiel. Stéphane Pia répondait à Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil, dont La France bouge à midi sur Europe 1. Faut-il, oui ou non, équiper les arbitres de Ligue 1 de micros, comme au rugby? Jean-Michel Aulas le pense. Pour le président de l'Olympique lyonnais, ce serait aller vers plus de transparence dans l'arbitrage des matchs, Cédric Chasseur.
Oui, on entendrait ainsi les conversations entre les arbitres et les joueurs sur le terrain, mais aussi les discussions entre l'arbitre central et le VAR, le centre de vidéo-arbitrage, sur des actions litigieuses comme le pénalty de Neymar accordé au PSG dimanche, à l'origine de la colère de Jean-Michel Aulas. Poser des micros sur les arbitres, les principaux concernés sont pour, à une large majorité. C'est en tout cas ce que dit le syndicat SAFE qui représente les arbitres pro, son président Olivier Lamar.
Les arbitres, eux, pensent que non seulement ils n'ont rien à cacher, que tout pourrait être entendu, mais qu'aussi cela pourrait les protéger, puisque tout acteur, tout joueur, tout entraîneur, toute personne qui viendrait près d'un arbitre saurait à ce moment-là que tout ce qu'il va dire est entendu de tous. ce qui peut aussi protéger les arbitres.
Et le meilleur exemple, c'est le rugby, où les téléspectateurs peuvent entendre les conversations des arbitres depuis plusieurs années déjà. En football, une expérience a été menée dans deux départements sur des matchs dits difficiles. Là, les arbitres ont été équipés de GoPro. Le bilan était très positif, me disait Olivier Lamar, président de Safe, puisque cela avait au moins permis de restaurer l'autorité de l'arbitre.
Cédric Chasseur, une tuile pour le PSG en Ligue 1. Lionel Messi touché au genou gauche. Il ne pourra pas jouer à Metz demain soir pour la 7e journée. Messi était sorti à un quart d'heure de la fin du match remporté dimanche dernier contre Lyon. On prend des nouvelles du temps pour demain.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Au Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo pour ce mercredi, Marlène Duret, l'amélioration se poursuit.
Et oui, je vous annonce du beau temps, Alexandre, pour
ça fait
demain, ça fait plaisir. Il va falloir attendre évidemment que les brouillards se dissipent, on en trouvera essentiellement dans les vallées ou encore dans le nord de la Bretagne. Et puis l'après-midi, il y a quelques petites exceptions avec ces nuages bas là, qui nous viennent d'Angleterre ou de Scandinavie, qui vont venir s'accrocher sur les côtes nord-bretonnes ou encore sur le littoral du nord, Pas-de-Calais. Et puis comme on est en marge d'une perturbation présente en Scandinavie, on a un voile nuageux qui va glisser sur la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne et les régions du Grand Est, mais le temps devrait rester lumineux. Et pour terminer, allez, un ciel d'abord voilé puis variable va s'installer dans les Pyrénées où la neige est apparue, je le rappelle, vers 2200 mètres d'altitude aujourd'hui. Et du côté des températures, il va faire frais demain matin au nord de la Loire avec 4 degrés, seulement 4 degrés à Nevers, à Beauvais ou encore du côté de Reims, 5 degrés à Alençon, dans l'Orne, comme à Orléans et Colmar, pour les minimales. Et puis, les températures en journée afficheront 20 à 25 degrés, jusqu'à 25 à 28 près de la Grande Bleue. On notera par exemple 20-21 en Basse-Normandie, en Alsace, en Lorraine, en région lilloise, 22 à Lyon, 23 à Paris et Montélimar, 25 entre Bordeaux et Toulouse, 26 à Antibes et jusqu'à 28 à Ajaccio.
Merci Marlène, nouveau point météo avec vous à minuit. Restez avec nous à suivre Top à Wall Street avec Didier Hameau. L'invité éco sera Nicolas Julia, fondateur de la start-up française Sorare qui vient de lever près de 600 millions d'euros pour un projet qu'on vous dévoile dans quelques minutes. A tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
22h17 sur Europe 1, c'est Top Wall Street avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street va un peu mieux ce soir en attendant le verdict de la Banque Centrale Américaine concernant l'inflation.
Oui, Wall Street qui perdait en moyenne 2% quand même hier, se calme ce soir. En attendant effectivement la Fed demain soir, le verdict tombera. Demain soir, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, mais c'est vrai qu'on temporise en attendant ces annonces. Le Dow Jones, moins 0,15%, petite baisse, 33 920 points. Le Nasdaq reprend 0,22%, 14 746 points. La Banque centrale américaine devrait clarifier ses positions concernant le risque inflationniste en vue d'un resserrement monétaire progressif dans les prochains mois. Ça donne un petit rebond sur les valeurs de technologie, oh, rien de spectaculaire. Hein. Microsoft plus 0,1%, Apple plus 0,3%, Facebook plus 0,5%. Tesla regagne quand même 1,2%, 739,38$. Puis la vedette du jour, c'est surtout Uber qui grimpe de 11,5%. 44,36$, le géant du VTC pourrait réaliser sur le trimestre en cours le premier bénéfice de son histoire de quelques millions de dollars. Ça suffit donc à faire progresser fortement Uber ce soir de 11,5%. Le pétrole aussi remonte un petit peu, plus 0,6%, $70 le baril, un petit peu au-dessus. Exxon en profite à $53,60. Et puis l'euro est plus calme à 1,1730 face au billet vert.
La bourse de Paris a refait une partie de son retard hier grâce à un rebond d'1,5% de CAC 40.
Gros rebond, oui, plus 1,5%, 6 552 points après sa baisse d'1,7% hier sur la situation chinoise qui reste évidemment sous haute surveillance, mais ça se calme quand même avec des variations, disons, assez nettes hein, du côté des valeurs industrielles qui reprennent un petit peu de poil de la bête. Saint-Gobain plus 3%, Total plus 2,5%, Air Liquide plus 2,5% aussi, le luxe aussi se reprend, LVMH plus 2,8% à 636€. Là, la vedette du jour, c'était Universal Music Group, hein, c'était sa première cotation. On a une forte hausse d'Universal Music de 36%, un bond spectaculaire à 25,24€. Le cours de lancement avait été fixé à 18,50€. C'est un véritable feu d'artifice pour la filiale de Vivendi.
Et puis l'exception du jour, Didier, c'est le titre Atos hein, qui repère du terrain.
Oui, là, c'est une baisse de 2,3% pour Atos. Le groupe de services informatiques revient à 45 euros après les récentes séances de spéculation sur un possible rachat de la part de Thales ou de Soprasteria. Les deux groupes, d'ailleurs, ont démenti ces rumeurs de rachat. De quoi faire redescendre Atos de 2,3% ce soir à 45 euros à la clôture. Sur les autres places financières, ça remonte un petit peu partout. Le DAX à Francfort reprend 1,4%. Ça va mieux aussi à Bruxelles, plus 0,8%. À Madrid, plus 1%. À Milan, plus 1,2%. Et donc à Paris, avec un CAC 40 en hausse d'un 1,5%. 6 552 points.
Merci Didier Hamot. L'invité éco ce soir, Nicolas Julia, fondateur de Sorare, qui réalise donc la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech. Sorare mise sur un jeu en ligne pour échanger et collectionner des vignettes numériques de joueurs de foot. Nicolas Julia répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Nicolas Julia.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Sorare. Alors je pense que là, pas mal de nos auditeurs sont en train de se dire « mais c'est quoi ?» C'est un peu le panini du 21e siècle, si vraiment on veut résumer, puisque vous avez inventé, via une technologie qu'on appelle la blockchain, un système de jeu et de cartes, notamment dans le domaine du football, des cartes qui valent aujourd'hui parfois des centaines de milliers d'euros. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que tout simplement, vous êtes la star du jour. Vous avez explosé tous les records. Vous êtes l'entreprise de la French Tech qui a levé le plus d'argent, 680 millions de dollars pour financer votre développement. Vous êtes l'entreprise la plus jeune, vous êtes née en 2018, aujourd'hui la plus valorisée, puisque vous valez, là, ce soir, au moment où on se parle, 4 milliards 300 millions de dollars. Ma première question, Nicolas Julia, va donc être très simple. Déjà, expliquez-nous ce que vous faites.
Avec grand plaisir. Alors, c'est quoi ce soir en quelques mots? C'est un jeu qui est un jeu de type fantasy football. Donc un jeu de type fantasy football, c'est un jeu où la performance des joueurs de foot sur le terrain va impacter votre performance en tant que manager. Donc si Mbappé marque un but, je vais marquer plus de points. Et c'est un jeu de fantasy football dans lequel je peux entrer, participer, en utilisant des cartes numériques qui représentent des joueurs de foot.
On le disait, et beaucoup vous présentent ainsi, vous êtes un peu le Panini numérique.
Alors, c'est une analogie qui est intéressante parce qu'elle met en relief la dimension objet de collection qui existait avec, qui existe toujours avec Panini, bien sûr, dans le monde physique et qu'on essaie de transporter sur le web avec ce concept de NFT qui permet d'authentifier et de sécuriser un bien numérique et donc d'en prouver la rareté digitale. Donc, on a bien cette dimension objet de collection, mais on a aussi une valeur d'usage pour le coup qu'on ne voyait pas nécessairement dans le monde physique. Donc non seulement on va pouvoir collectionner, acheter, revendre, mais on va pouvoir aussi utiliser cette carte numérique dans un jeu, mais aussi pour accéder à des expériences dans le monde physique, dans le monde tangible. Parce que je possède une carte, je vais pouvoir rencontrer un joueur, accéder au centre d'entraînement, ainsi de suite. Donc on a cette double valeur d'utilité sur la carte numérique.
Mais là encore, les gens pourraient se dire, mais pourquoi, bon sang, tout ça, ça peut valoir si cher? Il y a des cartes quand même, le record, c'est une carte de Cristiano Ronaldo, 280 000 euros au dollar, c'est ça l'idée?
C'est ça, effectivement, il y a des cartes, certaines cartes de top joueurs et certaines cartes très rares qui peuvent valoir cher. Après, on est sur des objets de collection, donc et d'ailleurs on est loin encore d'être sur certains prix qu'on peut observer dans le monde physique, que ce soit sur des cartes à collectionner ou sur des marchés de l'art. Mais en réalité, les propriétés de ces cartes-là sont les mêmes, c'est-à-dire que dans le monde physique, on sait comment authentifier une carte, une œuvre d'art, on ne savait pas le faire. Sur le web. Sur le web, tout était copiable avant les NFT.
Mais c'est ça, la grande différence, c'est grâce à une technologie qu'on appelle la blockchain, vous avez réussi à l'authentifier, à la sécuriser, et elle est finalement unique, même si elle est numérique, elle n'est pas duplicable. Et c'est ça la grande force. Ce qui est passionnant c'est dans ça. Votre modèle, vous voulez devenir demain le géant finalement du monde du sport, et là on ira vraiment du vestiaire au stade de foot en passant par le jeu vidéo.
C'est ça l'ambition, on veut créer un leader mondial, le leader mondial du divertissement dans le sport, on veut le faire depuis la France, on a cette ambition-là. On a commencé avec le football. On est en train, enfin le football quoi, le européen. On va s'étendre sur d'autres sports aux États-Unis. On est en train d'ouvrir un bureau là-bas. Et donc on va continuer notre développement dans les mois à venir en répliquant ce succès sur d'autres sports également.
À quoi vont servir ces 680 millions de dollars?
Premier pilier de déploiement de ces fonds-là va être ces accords de partenariat qu'on scelle au niveau des ligues principalement. Donc pour exemple, on a signé il y a quelques semaines un accord exclusif de 5 ans avec la Ligue espagnole. Donc on va continuer à se développer de cette manière-là avec les principales ligues de football et comme vous le disiez sur d'autres sports. Le deuxième pilier, c'est le recrutement évidemment, recruter les meilleurs talents à travers le monde. Et le troisième pilier, ça va être une dimension de réinvestissement dans l'écosystème du sport en général, que ce soit des projets qui naissent autour de Sorare, de certains jeux ou applications qui sont construits au-dessus de ces NFT, ou directement notre initiative qui favorise la pratique du sport.
Je le disais, hein, vous avez battu tous les records, c'est historique. Vous êtes pourtant né que depuis 2018. Quand on a tout cet argent qui nous tombe là entre les mains, Nicolas Julien, à un moment, on se dit quoi ? C'est fou, on va pas y arriver, on va exploser, on va.
On est depuis 3 ans en fait, on a senti que les NFT c'était une révolution qui allait être de la puissance du web, de la puissance du mobile. En fait, ça change la manière dont on possède un bien digital. Ben, on est content de voir que cette vision est validée quelque part, d'une part par nos utilisateurs, mais aussi par les ligues et par les clubs qui nous font confiance. Il y en a plus de 180 aujourd'hui, dont les principaux clubs de football au monde. Et après, on se sent aussi responsable maintenant d'exécuter sur cette vision parce qu'on est au début et qu'on a encore énormément à faire pour toucher des dizaines de millions de personnes et faire briller la French Tech et l'économie française au sens large.
Vous avez, je pense, les plus beaux actionnaires, en tout cas ceux dont on peut rêver, parce que vous, vos actionnaires, ça va d'un certain Antoine Griezmann à Xavier Niel. Comment vous expliquez aujourd'hui que des entreprises françaises, dans ce qu'on appelle la French Tech, réussissent à lever autant d'argent? Je le disais, c'est historique ce que vous avez fait, mais là on a appris aussi il y a quelques heures qu'une autre entreprise qui s'appelle Miracle lève aussi des centaines de millions d'euros en France. Comment vous expliquez qu'en ce moment, vous, la French Tech française, vous ayez à ce point-là la cote?
Je pense qu'on a la chance d'être une génération d'entrepreneurs qui a pu tirer profit de générations précédentes. Dans mon cas, vous avez mentionné Xavier Niel qui nous accompagne. Il y a également des entrepreneurs dans le monde de la blockchain qui nous ont aidés, comme les fondateurs de Ledger. Donc ça, c'est un premier point. On a un environnement qui mûrit autour de nous et on a vu des succès à grande échelle. Je pense que le deuxième point, c'est qu'il y a aussi l'ambition. On a plus peur en fait de vouloir créer des leaders mondiaux, de sortir de nos frontières et d'avoir cette ambition mondiale depuis le premier jour. On fait plus de 20% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis de notre côté et la France nous représente un peu plus de 10% de nos revenus. Et après, je pense qu'il y a un troisième point qui est aussi le contexte de marché avec ces banques centrales qui quand même alimentent un petit peu le système avec de l'argent qui finit par redescendre, notamment dans le capital risque.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Julia, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Sorare, hein, ce site, ce jeu qui permet de s'échanger des cartes via cette technologie blockchain, des cartes extrêmement recherchées. Un grand merci de nous avoir accordé cette interview ce soir sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain à 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel, il est bien possible qu'on n'ait pas fini d'entendre parler de ce jeu en ligne, cette espèce de catalogue Panini virtuel. On vous retrouve demain Emmanuel Duteil dès 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous recevrez le patron d'Acadomia, spécialiste des cours particuliers et du soutien scolaire.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Voyons ensemble une de vos quotidiens pour ce mercredi 22 septembre, demain premier jour de l'automne. La crise des sous-marins, Le Figaro vous emmène dans les coulisses d'une trahison. Pendant 1 an et demi, l'Australie a comploté, écrit Le Figaro, avec Londres et Washington pour sceller une alliance à trois, miner l'accord portant sur la fourniture de sous-marins par la France. Le Premier ministre australien Scott Morrison a lui-même convaincu le Premier ministre britannique Boris Johnson, puis le président des États-Unis d'une réunion à trois pour éjecter la France. C'est ce qu'a pu reconstituer Le Figaro pendant 18 mois ainsi. Les préparatifs de ce spectaculaire retournement d'alliance seront tenus secrets. Joe Biden à la tribune de l'ONU, c'est un peu guerre et paix pour Libération. Biden pacifique. Jeu de mots un peu tiré par les cheveux hein, à la une de Libé. Désormais tourné vers la compétition avec la Chine, le président américain a confirmé à l'ONU la fin des interventions militaires qui visent à imposer la démocratie. Des opérations soldées par de rares réussites, comme au Kosovo, écrit Libé, mais aussi beaucoup de fiascos, comme en Irak et plus récemment en Afghanistan. Il est aussi question des caisses de l'État, demain dans vos quotidiens. Aujourd'hui en France s'intéresse à la délicate sortie du quoi qu'il en coûte dans le budget de l'État 2022, qui fait aussi la une des échos. Les échos qui dressent le bilan d'Emmanuel Macron sur les baisses d'impôts, le travail. L'exécutif présente un budget qui promet un reflux du déficit. Ombre au tableau, toutefois, la forte hausse des dépenses courantes qui leste l'héritage du quinquennat d'Emmanuel Macron. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. On retrouve tout de suite la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre. Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
Bon, très bien. Eh ben écoutez, nous aussi, nous sommes partis donc pour 2h30 de Libre Antenne, comme tous les soirs. Et nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash.
Exactement. À tout à l'heure, Olivier. Alexandre.